Je suis femme, reine et dieu.
Au 7e siècle de notre ère, un moine égyptien d'Alexandrie évoque la mémoire de Cléopâtre.
C'était une femme éminente par ses qualités personnelles et ses actes empreints de virilité et de force.
Jean de Nicieu, c'est le nom de ce moine, nous offre une autre image de la reine d'Égypte.
Aucun des rois, ses prédécesseurs, n'avait accompli d'aussi grandes choses qu'elle.
Dans ce troisième épisode, à l'opposé de la propagande romaine, vous allez donc découvrir une Cléopâtre authentique chef d'État.
Les murs de Paris, et bientôt de toute la France, vont se couvrir d'affiches gigantesques où, en couleur de luxe, s'inscrira un nom, un seul, mais quel nom ? Cléopâtre.
Souvenez-vous, nous ne connaissons la vie de Cléopâtre qu'à travers les relations qu'elle a entretenues avec les hommes politiques romains. Il n'existe aucune biographie de Cléopâtre écrite sous l'Antiquité. Donc, dans les textes anciens, elle n'apparaît que dans une version réduite, la maîtresse de César, puis d'Antoine, stéréotype de la femme manipulatrice. Or, des études récentes nous montrent combien la reine d'Égypte fut une véritable souveraine. Ainsi, au milieu des hommes, voici l'exercice du pouvoir par Cléopâtre.
Il semble qu'une fois de plus, Cléopâtre soit déjà loin de moi. Et qu'il faille que je cours après elle.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Cléopâtre, le génie politique. Troisième épisode, une reine en son royaume.
La guerre !
Laisse-les parler, laisse-les négocier tant qu'ils veulent. Le temps est de notre côté, on ne peut que devenir plus fort.
Je t'aime, divine Cléopâtre, je t'aime parce que tu es toi.
Après l'assassinat de César, en 44 avant notre ère, Cléopâtre doit quitter Rome. La reine d'Égypte a perdu son protecteur. Elle craint pour sa vie et celle de leur fils, Césarion. Et surtout, elle veut se tenir loin des règlements de compte. Mais sur le navire qui la ramène vers Alexandrie, Cléopâtre réfléchit. Elle sait que son royaume ne peut exister sans le soutien politique de Rome. Alors, elle s'interroge. Qui va prendre le pouvoir à Rome après César ? Ses héritiers ou ses assassins ? Et sur qui faut-il miser pour sauver l'avenir de sa dynastie ?
Qui ? Octave, fils adoptif de César. Je n'aime guère ce jeune homme souffreteux, toujours enveloppé d'un manteau sale.
Octave, Cléopâtre est sceptique. Qui d'autre ?
Marc-Antoine. Celui-là est grand, fier et généreux. Mais César se défiait de sa paresse et de ses vices, qui ternissent trop souvent ses grandes qualités.
Marc-Antoine est-il vraiment fiable ? Et alors, que dire des deux autres ?
Qui ? Brutus et Cassius, les meurtriers de César, ce que l'on nomme les chefs républicains.
Cléopâtre ne sait pas quel camp choisir. Elle avisera en temps voulu. Le phare d'Alexandrie apparaît à la proue de son bateau. Et de retour en Égypte, la reine a une autre priorité.
En 44, après l'assassinat de Jules César, Cléopâtre rentre précipitamment en Égypte. Elle veut se mettre à l'abri parce qu'elle a bien compris que c'était une nouvelle guerre civile qui éclatait dans le monde romain.
L'historien Christian-Georges Schwenzel.
Et arrivé à Alexandrie, son premier acte politique, c'est d'éliminer le roi, son frère, Ptolémée XIV. Elle le fait mettre à mort, elle se débarrasse de lui pour mettre en avant son fils Césarion, qui est âgé de 3 ans et qui devient le nouveau roi. C'est le 15e Ptolémée, Ptolémaïos Caïsar, hein, Ptolémée Césarion. Elle va vraiment le mettre en avant, elle est officiellement la reine régente de son fils Ptolémée César.
Cléopâtre offre donc des gages au peuple égyptien. Puisque la tradition du royaume exige qu'un homme et une femme soient associés au pouvoir.
Mais elle ne proclame pas tout de suite Ptolémée XV, c'est-à-dire Césarion, roi associé.
Maurice Sartre, historien.
Elle le fait qu'en 43, l'année suivante, lorsqu'elle obtient le feu vert d'Antoine et d'Octave réunis, qui sont tous les deux d'accord pour qu'elle règne avec son fils. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'elle a attendu ? D'abord parce que ça confirme que son pouvoir est celui d'une reine cliente, d'une certaine manière. Elle est dans une dépendance de Rome, elle ne peut pas le nier. Et d'autre part, on peut penser qu'elle aurait pu se dispenser d'avoir un roi à côté d'elle. Mais elle connaît là aussi son histoire. Et elle sait que ce qui avait gêné beaucoup certaines de ses ancêtres, en quelque sorte, c'est justement qu'elles ont tenté de régner seules. Et ça, les Alexandrins ne le supportent pas. Il faut qu'il y ait un mâle. On ne va pas dire un homme, parce que Césarion, à cette époque-là, est encore un petit enfant. Mais il faut qu'il y ait un roi.
Approche, mon petit. Voici mon très cher Césarion. N'est-il pas l'exact reflet de son noble père ?
Sans aucun doute.
Elle est régente de son fils, mais évidemment son fils n'a que 3 ans, donc c'est elle qui détient véritablement le pouvoir. Et alors ce que l'on sait aujourd'hui, enfin ce que les historiennes, les historiens savent aujourd'hui, c'est que Cléopâtre était véritablement une grande dirigeante politique tout à fait sérieuse, loin de l'image de la femme complètement débauchée, dépravée, qui ne se serait absolument pas intéressée à la gestion, à l'administration de son pays. Elle cherche au contraire à gouverner l'Égypte, à prendre en main aussi le système administratif qui avait été mis en place par ses prédécesseurs, notamment Ptolémée II Philadelphe au IIIe siècle avant notre ère. C'était un système très dirigiste, une économie dirigée. Les souverains se considéraient comme les principaux propriétaires du royaume et ils cherchaient à tirer le plus gros profit de l'administration de ce royaume. Mais ce système avait connu de nombreux dysfonctionnements à partir du IIe siècle avant notre ère. Une forte corruption des fonctionnaires, certains fonctionnaires harcelaient la population. On a d'ailleurs des plaintes que l'on a retrouvées sur un certain nombre de papyrus. Donc elle veut reprendre en main ce système et on en a la preuve par exemple sur un papyrus. On voit bien qu'elle va poursuivre ces sujets qui ne paient pas leurs impôts jusque dans les temples où ils pourraient aller se réfugier. Et elle encourage la délation aussi. Donc elle a vraiment voulu reprendre en main ce système qui avait commencé à dysfonctionner.
Ce système politique, vieux de 3 siècles, Cléopâtre en est l'héritière. Tout comme la double culture ptolémaïque, car répétons qu'elle est à la fois grecque et égyptienne.
Alors on a parfois un peu de mal aujourd'hui à comprendre cette double identité, ce double langage aussi, parce que c'est selon qu'elle s'adresse à ses sujets égyptiens ou à ses sujets grecs. Elle tient 2 discours politiques différents, mais qui ne sont pas en contradiction l'un avec l'autre à cette époque, parce que la définition de l'identité, c'est pas exactement ce que l'on entend aujourd'hui, en notre début du XXIe siècle. Nous sommes, qu'on le veuille ou non, un peu les héritiers, malgré nous, de la définition de l'identité nationale, enfin telle que les nationalismes ont défini cette identité vue comme essentielle au XIXe et au XXe siècle. Alors ça, c'est pas du tout pertinent, cette vision-là, pour Cléopâtre. Elle assume 2 identités politiques, et dans le monde hellénistique de l'époque, très syncrétique et métissée, Enfin, ça ne pose aucun problème. Et c'est aussi une déesse. Et là, c'est peut-être l'essentiel. C'est une déesse reine. Son identité, si on lui avait posé la question, hein, ça aurait sans doute été « je suis une déesse ». Elle est d'abord une déesse, et non pas la déesse d'une religion monothéiste qui exclurait les autres, mais une déesse profondément syncrétique. Depuis Ptolémée II et Arsinoé II, ses ancêtres du IIIe siècle avant notre ère, les Ptolémées se considèrent comme des dieux et des déesses vivantes. Dès lors qu'ils montent sur le trône, ils sont dieux et rois, déesses et reines.
Je suis dieu. Je suis dieu. Ou je suis déesse, comme vous préférez. Mais les déesses étant accoutumées à passer après les dieux, je crois bien que je suis dieu.
Cléopâtre est une reine déesse qui règne sur une population bigarrée. Alors, qui sont les sujets de son royaume ?
On a les Égyptiens, les autochtones.
Nathalie Cohen, historienne.
On a des Grecs qui sont venus dans le sillage d'Alexandre, et donc qu'on appelle les Hélènes, hein, Hellénoi. Ils viennent de nombreuses cités grecques. Et puis, on a soit drainé par le biais de l'esclavage, soit surtout enrôlé comme mercenaire, on a un certain nombre de Juifs qui vont se joindre aux Grecs et qui vont participer de la constitution d'Alexandrie. Donc, les proportions, là, au premier siècle, hein, sur 500 000 habitants à Alexandrie, à peu près 180 000 Juifs. Donc, ça fait presque un tiers, en fait, de la cité. Donc, tout ça va demander une gestion extrêmement intelligente qui va être celle des Ptolémées.
Sous les Ptolémées, glorieuse ou faible, avait grandi régulièrement la ville fondée par Alexandre à l'embouchure du delta d'Égypte. Ville qui devait devenir, non seulement en peu de temps, un grand centre de civilisation et de commerce, mais pour plus de trois siècles, l'agglomération la plus riche et la plus peuplée de l'Orient.
Alexandrie a toujours été une ville cosmopolite. L'organisation de la cité a toujours été, depuis le début, une organisation tripartite, c'est-à-dire qu'on a à la fois une loi universelle grecque, et puis, ce qui a été un peu le génie des Ptolémées, c'est que chacun sa culture et surtout chacun sa loi. Et donc, en fait, dans les conflits privés, selon que vous étiez issu de telle ou telle communauté, s'appliquait pour vous le droit de votre communauté.
Alors vous écrivez, Nathalie Cohen, qu'il fait bon vivre d'être juif à Alexandrie sous les Ptolémées, y compris sous Cléopâtre. Qu'est-ce que ça veut dire précisément ?
Ça veut dire que les juifs ne sont pas perçus comme un élément étrange ou étranger. Les juifs maîtrisent absolument le grec. Et ce qui fait que lorsque vous parlez grec, vous êtes identifié à une communauté d'hellénophones. Donc les juifs étaient plutôt identifiés, plutôt catalogués du côté de l'élément grec, et ils avaient, disons, ils étaient mieux traités que les Égyptiens autochtones. Et d'ailleurs, c'est cette injustice-là, hein, donc c'était perçu comme une injustice du côté des Égyptiens, qui va en fait les faire s'ériger contre les Juifs au moment où Rome va prendre le pouvoir. Quand Rome va prendre le pouvoir, les Juifs ne vont plus être considérés comme des Grecs, ou plus ou moins considérés comme des Grecs. Et donc, comme il fait bon vivre à Alexandrie, eh ben, on peut avoir tous les métiers qu'on veut. Quand on est un ancien soldat, on est cobe d'un petit lopin de terre, ça c'est une invention de la civilisation alexandrine. On peut être commerçant, on peut être tout ce qu'on veut. On peut même travailler pour les Ptolémées, etc., etc.
Ça veut dire aussi qu'on peut exercer son culte librement, qu'on construit des synagogues.
Non seulement liberté de culte, mais encore dédicace des synagogues à tel ou tel Ptolémée. Et d'ailleurs, on a retrouvé deux dédicaces sur deux synagogues différentes qui font référence à tel ou tel Ptolémée de moins de 200, mais aussi à Cléopâtre. Cléopâtre a renouvelé la capacité des synagogues à protéger les gens qui étaient dedans. Donc, on a une communauté juive qui est hellénisée tout en gardant son identité juive.
En tant que reine, Cléopâtre est soucieuse d'une paix religieuse. Et les juifs ne sont pas perçus comme des étrangers. Pourtant, nous sommes au pays des pharaons, ce royaume millénaire où Moïse, selon l'Ancien Testament, s'est affronté au pouvoir royal pour libérer le peuple juif. C'est ce que raconte Les 10 commandements de Cécile B2000.
Si un nouveau fléau vient s'abattre sur ton royaume, ce sera pour te punir que notre Dieu l'aura envoyé. Et une telle plainte s'élèvera alors de l'Égypte tout entière que tu seras obligé de laisser partir mes frères. Ne reparais plus devant moi, Moïse, car le jour que tu reverrais mon visage serait pour toi le dernier. Que cela soit écrit.
Dans le film, Moïse évoque les 10 plaies d'Égypte infligées par le Dieu d'Israël aux Égyptiens. Épisode qui figure dans la Bible, bien sûr, et ce récit religieux très ancien a été traduit en grec à Alexandrie au 3e siècle avant notre ère. Une traduction qui n'est pas sans conséquence, car ce récit juif, devenu accessible aux Égyptiens qui lisent le grec, a généré une forme d'hostilité et de concurrence.
Il faut savoir quand même que les autochtones égyptiens, et notamment ceux qui étaient hellénisés, qui parlaient grec, voyaient d'un mauvais œil la situation des juifs. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ils ressentaient les juifs comme étant un élément étranger et ils ne comprenaient pas que cet élément étranger ait pu être comme ça identifié aux grecs dominants, d'une part. Et d'autre part, il y a une espèce d'animosité et de compétition entre ces juifs qui disent que leur religion est très vieille et très respectable et ces égyptiens qui savent qu'ils sont issus de dynasties extrêmement, extrêmement anciennes. Il y a une compétition et puis il y a une hostilité de la part des Égyptiens et notamment des intellectuels égyptiens, Manéthon, Appion, tout ça sont des historiens, des gens qui font aussi l'apologie de la religion égyptienne et de la sagesse égyptienne. Il faut savoir quand même que la sagesse égyptienne, dans l'Antiquité, elle vaut son poids d'or. Dans les dialogues de Platon, on a des allusions à Thoth, etc., aux choses anciennes égyptiennes, à une espèce de sagesse ancienne. Donc en fait, tous ces gens-là considèrent que les Juifs sont des menteurs, ce sont des usurpateurs, que la sortie d'Égypte, c'est de la blague, que c'était des pestiférés, des lépreux qui sentaient très mauvais et que le pharaon les a mis dehors, etc., etc. Donc, il faut comprendre qu'il y a ce terrain d'animosité.
Animosité, certes, mais tant que la reine Cléopâtre fut au pouvoir, les Juifs furent considérés comme des Grecs. Or, après la mort de Cléopâtre, en 30 avant notre ère, les choses ont changé pour les Juifs d'Égypte.
À partir du moment où les Romains arrivent et qu'il y a un préfet d'Égypte qui dépend directement du nouvel empereur romain Octave qui devient Auguste, les Romains, ce sont des gens qui ne sont, pour eux, et barbare qui n'est pas romain, et grec qui est grec, et juif qui est juif, et égyptien qui est égyptien. Donc les Romains classifient les choses selon le droit de façon juridique. Ils considèrent que les Égyptiens sont des autochtones, les Grecs sont des Grecs et que les Juifs sont étrangers, que les Juifs viennent de Judée. Donc, ils considèrent que les Juifs n'ont plus rien à voir avec la population grecque et les avantages fiscaux que les Juifs avaient. Alors, ils n'avaient pas une fiscalité aussi avantageuse que celle des Grecs, mais ils avaient une fiscalité bien plus avantageuse que celle des Égyptiens. Les avantages fiscaux disparaissent et puis les Égyptiens peuvent se venger, se donner à cœur joie, parce que les Juifs se sentent rejetés sous administration romaine. C'est là que les choses vont partir vraiment en vrille. C'est de cette façon-là qu'on peut expliquer ce fameux pogrom d'Alexandrie de 38 après l'ère chrétienne.
Oui, ce pogrom à Alexandrie, en 38 de notre ère, est considéré par les historiens comme le premier pogrom de l'histoire. Le philosophe Philon d'Alexandrie fut témoin de cette émeute anti-juive et il en a laissé une trace écrite.
En rassemblant de toute la cité comme des bestiaux avec leurs petits, tant de milliers d'hommes avec des femmes et des enfants sur un espace très réduit, comme qui dirait un enclos, ils avaient pensé trouver avant peu de jours des monceaux de cadavres entassés, des gens morts de faim faute de l'indispensable, la soudaineté du fléau n'ayant pas permis de préparer d'avance, comme par divination, le nécessaire. Ils sont sans nombre ceux qu'ils exterminèrent encore et firent disparaître par diverses sortes de mauvais traitements combinés pour satisfaire une terrible cruauté. Ces frénétiques dont la sauvagerie faisait des bêtes féroces. Tous les juifs qu'ils apercevaient, où que ce fût, ils les frappaient à coups de pierre ou à coups de bâton, en évitant de porter leurs coups tout de suite sur les parties vitales, de crainte qu'une mort rapide ne vînt trop rapidement aussi leur ôter le sentiment de leur torture.
C'est donc dans cette Égypte post-Cléopâtre que prennent racine les haines antisémites qui sont arrivées jusqu'à nous. Ainsi, il faut comprendre que la chute de Cléopâtre résonne comme une catastrophe pour le peuple juif.
La chute de Cléopâtre, c'est la fin des Ptolémées. Et en fait, cette chute de Cléopâtre marque la fin d'une ère, l'ère ptolémaïque, qui a été en quelque sorte un havre de paix pour les Juifs. À ce moment-là, à partir du moment où c'est les Romains qui reprennent l'administration de ces territoires, les Juifs vont être rendus à leur étrangeté.
Dans la tradition des Ptolémées, Cléopâtre considérait les Juifs comme ses semblables. Certes, avec une religion monothéiste, mais qui coexistait en harmonie avec le polythéisme gréco-égyptien. Pour asseoir son pouvoir, Cléopâtre s'est appuyé sur le clergé et les rites pharaoniques. Souvenez-vous, Cléopâtre était une reine déesse. Et parmi les divinités égyptiennes, elle a choisi de s'identifier à Isis. Pourquoi ce choix est-il crucial ?
Isis, c'est vraiment la grande divinité égyptienne à l'époque. Elle a aussi été d'ailleurs adoptée par les Grecs. Les Grecs ont hellénisé Isis et de nombreux Grecs d'Égypte et d'ailleurs adorent cette grande déesse d'origine pharaonique. Alors Isis, c'était à l'origine une déesse du trône. Enfin, d'ailleurs, Iset, c'est le trône, c'est l'origine de son nom. C'est un hiéroglyphe qui représente le trône pharaonique. Elle représente la légitimité du trône, et elle est d'ailleurs elle-même le trône de son propre fils Horus, qu'on voit souvent installé sur les genoux de sa maman. Elle allaite son fils, elle est le trône de son fils Horus. Alors, Cléopâtre avait toutes les raisons, évidemment, de s'identifier à Isis, parce qu'elle a, elle aussi, son Horus. C'est évidemment Césarion. Cléopâtre a tout intérêt à être pour les populations à la fois égyptiennes et grecques qui ont adopté le culte d'Isis, une Isis incarnée, une Néa Isis. C'est ce que dit d'ailleurs plus tard que dans sa vie d'Antoine. Elle apparaît en public vêtue en déesse Isis et uniquement vêtue en déesse Isis à partir de 34 avant notre ère.
Dès la première heure du jour, la déesse était sur pied et celui qui voulait mériter ses grâces particulières devait se présenter à son lever pour la prière du matin. Le temple était ouvert avec grande pompe. Le grand prêtre sortait du sanctuaire accompagné de ses ministres. L'encens odorant fumait sur l'autel. De doux sons de flûte se faisaient entendre. Cependant, la communauté s'était partagée en deux rangs dans le vestibule jusqu'au premier degré du temple. La voix du prêtre invite à la prière, une sorte de litanie et psalmodiée. Puis on entend retentir dans les mains de quelques adorateurs les sons éclatants du sistre d'Isis. Souvent, une partie de l'histoire de la déesse était représentée au moyen de pantomimes et de danses symboliques. Les éléments de son culte sont présentés avec des invocations au peuple agenouillé qui chante ou qui murmure toutes sortes d'oraisons.
Quand on règne sur l'Égypte, il y a un élément incontournable dont il faut anticiper et absorber les caprices. Le Nil et ses 6700 kilomètres.
Tout vous ramène au fleuve qui coule, jaune, violent, inhumain. Tellement puissant qu'on a renoncé à l'enfermer entre des quais. Il coule comme bon lui semble, déborde, s'étale, féconde cette terre qui n'est que le limon de ses précédents voyages. Ils disparaissent et l'Égypte disparaît avec lui.
En Égypte, le Nil, c'est la vie. La crue du fleuve rend les terres fertiles. Et le Nil nourrit les 8 millions d'Égyptiens qui vivent sous Cléopâtre. Or, au début de son règne, le Nil lui fait défaut.
Au cours des années 40, il y a eu plusieurs mauvaises crues du Nil. Il y en a eu trois, en fait, hein, qui sont attestées par les sources antiques.
Christian Georges Schwenzel, historien.
Le Nil est un fleuve capricieux. Enfin, l'Égypte est un don du Nil. En général, c'est un véritable grenier à blé, fertile et prospère, sauf quand le Nil ne déborde pas suffisamment. Et c'est une crue qui a lieu en été, quand les eaux se retirent, les eaux déposent un limon fertile sur les terres d'Égypte. Donc, quand la crue est mauvaise, les conséquences sont catastrophiques. C'est la famine, des maladies, des épidémies également se développent. Alors là, ce que l'on voit à partir de quelques documents qui sont assez peu nombreux, mais enfin, il y en a quand même quelques-uns, des inscriptions, les documents épigraphiques, nous montrent qu'il y a une administration centrale, à la tête de laquelle se trouve Cléopâtre, qui intervient, qui agit pour lutter contre la famine. Et notamment, on a une inscription qui nous dit que Cléopâtre fait acheminer du blé vers les villes, vers les grands centres urbains, parce que c'est là qu'on a la plus forte concentration de population. Il faut absolument nourrir la population des villes pour empêcher notamment des révoltes de la faim. Mais les campagnes ne sont pas non plus oubliées, parce qu'il y a aussi une administration locale qui va jouer son rôle. Il y en a notamment une inscription retrouvée en Thébaïde, dans le sud de l'Égypte. C'est une inscription qui glorifie le représentant local de l'administration qui s'appelait Callimachos. Callimachos a parfaitement organisé la gestion de cette crise en faisant distribuer le peu de blé qui était disponible. Donc on a à la fois une administration centrale compétente et aussi les relais locaux de l'administration de Cléopâtre.
Dans ces territoires locaux, jusqu'aux confins du royaume, Cléopâtre a usé d'un autre outil pour asseoir son pouvoir. On en trouve des traces à Paris, à la BNF, rue Richelieu, où nous attend un éminent numismate.
Je m'appelle Julien Olivier, je travaille à la Bibliothèque nationale de France, au département des monnaies et médailles antiques, dans lequel je m'occupe de la collection des monnaies grecques.
Notre reporter, Martine Abbat, avait rendez-vous avec lui dans le 2e arrondissement de Paris.
Donc là, on se dirige vers un des départements qui se situe sur ce site, qui est le département des monnaies, médailles et antiques, qui conserve un fonds très conséquent de monnaies, de médailles et de jetons, et notamment donc de monnaies grecques, avec tout particulièrement les monnaies des rois ptolémaïques et donc de Cléopâtre.
C'est un endroit protégé. On y conserve des trésors.
Donc là, j'imagine qu'on rentre, c'est super sécurisé, j'imagine.
Oui, évidemment, c'est super sécurisé. Donc c'est sous clé, avec des accès qui sont restreints, bien sûr, du fait de la rareté, la préciosité des collections.
On s'approche doucement du Graal.
Ça, c'est la porte blindée de la réserve des
oui,
monnaies et médailles.
Exactement.
Le numismate revient avec des vestiges antiques.
Alors, là, vous nous avez amené un plateau en bois avec de petites boîtes en carton, des petits coffrets.
Donc moi, je conserve les monnaies grecques. Les monnaies grecques, c'est à la Bibliothèque nationale, c'est 125 000 et quelques objets. Mais s'il y a bien un monnayage, une souveraine qu'on ne cesse de demander systématiquement, c'est Cléopâtre.
Et les monnaies de Cléopâtre ont une particularité.
Cléopâtre, en fait, en tout cas au sein de sa dynastie, donc dans le royaume d'Égypte, le royaume des Ptolémées, fait plutôt figure d'innovatrice en diffusant son portrait plus largement que ses prédécesseurs. C'est-à-dire que depuis 300 ans, il y a très peu de souverains qui se sont fait représenter, par exemple, sur leur drachme, comme l'a fait ici Cléopâtre, ou encore plus sur leur monnayage de bronze, comme le fera aussi Cléopâtre, alors que jusqu'ici, les Ptolémées ne montraient sur le monnayage de bronze que des divinités. Zeus, Amon, Isis, Alexandrie. Cléopâtre, c'est la première à se faire représenter elle-même.
Et pourquoi ?
Ah. Alors, c'est difficile parce qu'évidemment, on n'était pas dans l'atelier, on n'était pas non plus dans le palais de Cléopâtre quand cette décision a été prise.
Mais je veux dire, c'est quand même fort de se représenter sur sa monnaie pour qu'elle circule partout.
Oui. Alors, on peut formuler des hypothèses. D'abord, une réforme du monnayage de bronze, c'est une réforme qui touche le monnayage de plus faible valeur, donc celui qui a le moins d'importance économique, a priori, au niveau du roi, mais c'est aussi celui qui est le manipulé par le plus grand nombre de personnes.
Donc ce sont ces petites pièces-là, de bronze,
voilà. Alors,
qui ont un petit peu verdi, d'ailleurs.
Exactement. Alors le bronze a un alliage effectivement beaucoup plus instable que l'argent ou que l'or, évidemment.
De moindre valeur.
De moindre valeur aussi. Alors, on peut...
Et qui circule donc plus dans la population.
Qui circule plus largement parce que ce sont des usages qui sont plus quotidiens. C'est avec ça qu'on va acheter des denrées quotidiennes. C'est aussi avec ça que beaucoup d'Égyptiens et de Grecs peuvent payer leurs impôts. Ce qui est important, notamment quand on se place du point de vue du pouvoir royal. Et donc c'est une monnaie qui effectivement est diffusée plus largement. C'est-à-dire que la monnaie d'argent, on va la trouver plutôt dans les villes ou dans le nord du pays, là où il y a des Grecs et des Macédoniens. La monnaie de bronze, on va la retrouver partout.
Cléopâtre répand sur l'ensemble de son territoire une monnaie populaire sur laquelle on trouve son portrait.
Une des raisons qui peut expliquer cette nouveauté, c'est que Cléopâtre, elle a visiblement en tête un principe, c'est celui qu'elle va restaurer son royaume. Elle restaure son royaume dans son antique puissance. Et on a l'idée, en tout cas, qu'à travers son monnayage, elle cherche aussi à montrer cette restauration. Et la meilleure preuve, peut-être, c'est de vous montrer à quoi ressemblait le monnayage de bronze équivalent avant. Pour le bronze, donc la monnaie commune. Donc c'est une tête de Zeus Amon, une divinité principale du royaume.
Qui avec... n'est pas très circulaire, voit qu'il a été frappé un peu avec difficulté.
Exactement, c'est ça. Alors, Robert, vous avez l'aigle, mais ce qui frappe, effectivement, c'est ça, c'est que c'est fait vite, avec un alliage qui n'est sans doute pas de très bonne qualité. On a beaucoup d'exemplaires qui sont lacunaires, qui ne sont pas très bien frappés. Vraiment un objet qui est peu soigné, en fait. Et si on compare ça... Donc, ce qui circulait jusqu'à ce que Cléopâtre monte sur le trône, et puis à un moment au cours de son règne, ce nouveau monnayage, là on voit la différence. Parce que vous avez déjà un soin de la gravure, vous avez des flancs, donc c'est cette pastille de métal sur laquelle on imprime les types qui sont très soignés.
Flanc, c'est la rondelle de métal.
C'est ça, qui est donc circulaire, qui est même légèrement biseautée si vous regardez. Donc vous avez un travail qui est fait sur le flanc monétaire qui est sans doute très chronophage. Et puis vous avez une frappe qui est bien réussie, qui est centrée. Et puis un objet qui est plutôt bien réalisé, qui a nécessité en tout cas beaucoup plus de soins que ce qui se faisait auparavant. Et d'ailleurs la différence devait être telle que les monnayeurs se sont posé la question à un moment de l'usage de ces pièces. Parce que quand vous passez de ça à ça, comment le public le reçoit? C'est toujours la difficulté quand on parle de monnaie. Alors peut-être que certains se souviennent, quand nous on est passé du franc à l'euro, le nombre d'années de pédagogie qu'il a fallu pour qu'on ait en tête le nouveau système monétaire, les nouveaux types monétaires.
Les valeurs.
Les valeurs, et puis l'équivalence avec l'ancien système. Là, on se pose la même question. Dans les monnaies grecques, on ne marque pas la valeur. Il y a les grandes, les petites, les gens savent que la monnaie avec le Zeus ou la monnaie avec l'Isis a telle ou telle valeur.
Parce qu'une monnaie, c'est aussi une manière de communiquer.
Oui, la monnaie, c'est un support iconographique extrêmement précieux.
Une monnaie, c'est en effet un moyen d'expression du pouvoir. Cléopâtre l'avait bien compris et elle est allée plus loin.
Alors ça, il y a une grande découverte qui a été réalisée par les historiens au cours des dernières années, c'est la réforme économique et monétaire qui a été menée par Cléopâtre. Les sources littéraires latines, les auteurs romains n'en parlent absolument pas. Ils ne parlent que de la femme fatale et débauchée, pas du tout de la femme gestionnaire qui a réussi à administrer son royaume. Alors elle a mené donc des réformes économiques qui ont aussi eu d'ailleurs un impact social. La monnaie... À l'époque, le métal de référence dans le royaume de Cléopâtre, c'était l'argent, mais on en manquait cruellement. Et Cléopâtre a donc fait frapper un grand nombre de monnaies en bronze pour subvenir aux besoins de la population, notamment la plus pauvre, les paysans de la vallée du Nil, qui n'avaient pas de monnaie en argent. Mais il fallait encore que les commerçants acceptent ces monnaies de bronze. Et donc, ce qu'a fait Cléopâtre, c'est qu'elle a fait apparaître sur les monnaies de bronze, la valeur officielle de ces monnaies, c'est-à-dire la valeur officielle par rapport à l'argent. C'est la lettre pi, par exemple, qui veut dire 80 drachmes, ou la lettre mu, le M grec, qui veut dire 40 drachmes. Et donc, de cette manière-là, en faisant apparaître la valeur sur les monnaies, elle contrôle aussi les prix. C'est-à-dire que le paysan du Nil, en gros, ne va pas se faire arnaquer par le commerçant qui, déçu d'être payé en monnaie de bronze et non pas en monnaie d'argent, aurait été tenté de demander davantage d'argent aux paysans. Alors ça, c'est vraiment une innovation majeure parce que dans l'Antiquité, en général, c'est le métal que contient la monnaie qui fait la valeur de la monnaie et non pas Il n'y a pas de valeur, comme aujourd'hui, hein, sur nos euros, sur les dollars, inscrite sur la monnaie.
Réforme monétaire, réforme économique, ravitaillement des villes, lutte contre l'inflation et souci d'une paix sociale, les quelques sources en notre possession nous révèlent une Cléopâtre gestionnaire.
On a quand même un certain nombre d'archives, de documents qui nous la montrent à l'œuvre, ou plus exactement, qui sont en rapport avec sa gestion.
L'historien Maurice Sartre.
Alors, on voit globalement, d'abord, qu'elle veut absolument assurer, quoi qu'il arrive, l'approvisionnement d'Alexandrie. Car elle sait que s'il y a une émeute à Alexandrie, le roi peut y laisser la peau ou il peut être chassé. Ce qu'on voit aussi, c'est que on commence à apercevoir des Romains qui sont de grands propriétaires en Égypte. Donc, il y a une sorte de colonisation intérieure qui est assez intéressante, qu'elle laisse faire, d'autant plus qu'elle accorde, on a un exemple en tout cas, d'un grand propriétaire romain en Égypte, et il est déchargé de toute taxe pour exporter du blé d'Égypte, probablement vers Rome, et importer en Égypte du vin d'Asie mineure, parce que en Égypte, on produit pas de vin, et la clientèle qui est visée, c'est la clientèle d'Alexandrie, la clientèle grecque. C'est pas l'égyptienne base qui boit du vin, c'est les Grecs. Donc, si vous voulez, ce qu'on voit, c'est surtout une reine assez soucieuse de bien protéger les intérêts des Grecs et des Romains qui sont associés. De même, par exemple, on a un édit, on va dire ça comme ça, une lettre d'elle ou un règlement qui rappelle que les propriétaires ne sont pas soumis à l'impôt. Elle essaye de faire respecter les règles. Il faut bien reconnaître que ça va quand même souvent dans le sens d'une protection accordée aux Alexandrins et aux gens riches. Cela dit, lors de l'absence de Crux de 42, on voit un haut fonctionnaire qui est quand même sous ses ordres prendre des mesures pour bloquer le prix du blé, pour faire en sorte que le blé soit vendu à Thèbes et en Haute-Égypte au prix coûtant pour alimenter la population. Donc on peut pas dire non plus qu'elle se désintéresse de la population.
Il apparaît dans ce que vous dites, Maurice Sartre, que Cléopâtre est une souveraine qui sait protéger son pouvoir.
Oui, elle protège son pouvoir. Elle accorde des faveurs. C'est peut-être l'effet du hasard, parce qu'on a une demi-douzaine de documents. Alors, vous savez, faut peut-être pas porter un jugement définitif. Bon. Mais il est vrai que les documents qui se rapportent à sa gestion montrent en train de protéger plutôt ceux qui sont les soutiens de son pouvoir, en réalité. Mais, cela dit, elle est honorée par des corporations aussi, ça c'est un autre document, probablement égyptien, et donc là aussi, ça prouve que les gens ont une certaine loyauté à l'égard de la dynastie. Et c'est là peut-être que, alors, lorsqu'elle endosse le costume de pharaon, on peut le mettre au féminin si on veut, puisque l'égyptien a créé le féminin pour elle. Donc, pourquoi pas. Mais lorsqu'elle endosse son costume de pharaon, c'est aussi un moyen de jouer sur la loyauté ou de raviver la loyauté des populations, on va dire indigènes et égyptiennes. Et c'est une reine qui a régné. Ça, c'est clair.
Numéro bis. L'Égypte est-il le plus puissant empire du monde ?
Oui, exactement, madame. Il n'y a pas d'empire plus puissant dans le monde. Bien sûr, je ne connais pas non plus tout le monde dans le monde, mais à mon avis, non.
Je vais construire les plus magnifiques des palais.
D'accord.
Et c'est toi, numéro bis, qui en sera l'architecte.
D'accord.
J'ai envie d'un œil neuf sur ce chantier, d'une vision jeune. Va, numéro bis, construis ce palais. Tu as 3 mois, jour pour jour, top chronos.
Quand on vous entend, Christian-Georges Schwenzel, on a le sentiment d'une authentique souveraine, une Cléopâtre qui a dirigé son royaume.
Là, c'est vraiment les conclusions, disons, des recherches les plus récentes qui ont pu être menées sur Cléopâtre. C'est vraiment une dirigeante sérieuse et compétente qui a voulu reprendre en main, redresser aussi l'économie de son royaume et qui a essayé de satisfaire un peu tout le monde, c'est-à-dire à la fois les populations, l'élite grecque des cités, tout en n'oubliant pas non plus les paysans majoritaires de la vallée du Nil, pour lesquels elle a cherché notamment à contrôler les prix et à limiter, du coup, une forme d'inflation.
Pendant que Cléopâtre gérait au mieux son royaume en Égypte, elle a sans aucun doute conservé un œil sur la tumultueuse vie politique à Rome.
Après l'assassinat de Jules César, éclate une nouvelle guerre civile dans le monde romain entre, d'un côté, les Césariens, c'est-à-dire les héritiers de César, son fils adoptif Octave, Marc-Antoine et Lépide, qui étaient de proches collaborateurs de César. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les Césaricides, les assassins de César, essentiellement Cassius et Brutus. Et donc, une nouvelle guerre civile éclate. Cléopâtre, elle fait preuve de prudence, c'est-à-dire qu'elle se tient à l'écart, elle attend de voir qui va l'emporter, et elle est très ambiguë.
Cléopâtre opte pour la prudence. Elle attend, elle observe, et elle ne prend pas réellement parti, jouant parfois un double jeu jusqu'au dénouement.
Et pendant plus de 2 ans, Antoine poursuivit sans relâche les assassins de César. Finalement, à Philippe, il put lancer contre eux toute la puissance de ses légions et de celle d'Octave, héritier de César. Cassius fut le premier à mourir de sa propre main, puis Brutus et les autres.
Alors finalement, ce sont les Césariens qui l'emportent à la bataille de Philippe, dans le nord de la Grèce, en 42 avant notre ère. Cassius et Brutus se suicident et les vainqueurs se partagent le monde romain. Et donc on a deux personnages véritablement importants, Octave qui séjourne à Rome et qui est le nouveau maître de l'Occident romain, et Marc-Antoine qui part en Orient, il est chargé de réorganiser l'administration de l'Orient, et Cléopâtre comprend évidemment en 41 avant notre ère que c'est lui le successeur de Jules César en Orient, et elle comprend qu'elle va devoir adopter la même stratégie qu'avec Jules César, séduire, d'une certaine manière, Marc-Antoine.
Après avoir vaincu les assassins de César, Marc-Antoine incarne la puissance romaine dans l'Est méditerranéen. Autrement dit, c'est l'homme qui compte pour Cléopâtre.
La dignité et la noblesse de la figure de Marc-Antoine annonçaient un homme d'une grande naissance. Sa barbe épaisse, son front large, son nez aquilin, et un air mâle répandu sur toute sa personne lui donnaient beaucoup de ressemblance avec les statues et les portraits d'Hercule.
Face à Marc-Antoine et Octave, les nouveaux maîtres de Rome, Cléopâtre et Lucide.
Elle n'est pas naïve non plus. Elle sait bien d'être la mère du seul fils de César. Ça peut être gênant pour Octave, qui est le fils adoptif de César. Et donc, son fils à elle peut apparaître comme une sorte de reproche vivant, en quelque sorte, à l'enfant adopté. Alors, je pense qu'elle joue habilement, elle place ses pions, et lorsque la victoire est acquise par le camp donc des héritiers de César, Antoine et Octave, elle va à la fameuse rencontre de Tarse. Elle est convoquée par Antoine, pas l'oublier. Elle va pas comme ça d'elle-même pour lui porter des fleurs et le féliciter. Elle y va convoquée. Donc elle y va en accusée.
Pour quelle raison il la convoque ?
Il la convoque parce que il l'accuse d'avoir eu une attitude ambiguë. Et à mon avis, il a eu raison.
Je n'ai aucune intention d'être sur cette longue liste de reines qui frissonnèrent de bonheur d'être convoquées par le seigneur Marc-Antoine.
Mais je n'ai pas dit convoqué.
Tu dis invité. Lui veut dire convoqué. En tout cas, je suis reine d'Égypte. Et j'ai décidé de rester sur la terre égyptienne.
Tarse ne se trouve pas à l'autre bout du monde, Majesté.
Ne serait-ce même qu'à un pas hors de l'Égypte, ce serait trop loin.
Marc-Antoine convoque tous les souverains, tous les petits rois, les roitelets, les princes locaux, parce qu'il veut réorganiser l'administration de l'Orient après la période de guerre civile qui a suivi l'assassinat de Jules César. Mais alors il veut sans doute aussi demander à Cléopâtre des comptes sur son inactivité quand même pendant la guerre civile.
Hein. Son double jeu quasiment.
Et son double jeu. En tout cas, sa position n'était pas claire du tout. Alors, Cléopâtre sait qu'elle joue sa survie politique. Elle quitte Alexandrie dans un magnifique bateau, c'est une sorte de palais flottant, et donc elle arrive à Tarse sur ce magnifique bateau. Plutarque nous en a donné la meilleure description, il nous dit qu'elle est telle que l'on peint la déesse Aphrodite.
Cléopâtre voguait sur un navire à la poupe d'or, aux voiles de pourpre largement déployées, le mouvement des rames, qui étaient d'argent, se faisait au son des syrinx et des cithares. Cléopâtre était allongée sous un dais brodé d'or, parée comme Aphrodite telle que les peintres la représentent.
Aphrodite était la déesse de l'amour et de la beauté, donc on imagine une Cléopâtre étendue sur sa couche, très peu vêtue ou vêtue de ses seuls bijoux. En fait, ça veut dire qu'elle est très sexy, comme on dirait aujourd'hui. Et il n'y a pas qu'elle sur le bateau, il y a aussi de nombreux figurants, des jeunes filles, des jeunes garçons, des nudés qui sont censés incarner des Eros ou des Cupidons avec des ailes dans le dos. Donc c'est un magnifique spectacle, un spectacle divin et qu'elle offre à Marc-Antoine qui est subjugué et séduit dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire qu'il aurait été, en tout cas selon la vision traditionnelle de Plutarque, détourné de sa tâche, détourné de sa mission administrative en Orient par cette femme qui l'ensorcelle et qui va le détourner vers Alexandrie.
La barque où elle était couchée, resplendissante comme un trône, incendiait l'eau. Quand la barque arrive à Tarse, tous accourent, désertant la place publique où trône Antoine. Il appelle, mais sa voix expire. Et si le vide était possible, l'air même aurait fui, parti pour contempler lui aussi Cléopâtre, laissant dans la nature un trou.
Et sa grande habileté à elle, ça va être d'arriver avec là aussi un culot monstre, d'abord de lui en mettre plein la vue. Elle l'éblouit, littéralement. D'abord, elle fait tout pour que son arrivée soit tellement spectaculaire que, d'après Plutarque, Antoine s'est retrouvé tout seul. Il n'y avait plus personne autour de lui. Tout le monde était allé voir le bateau de la reine qui arrivait avec des rames d'argent, des voiles de fil d'or, etc., etc. Même si Plutarque en a rajouté, je crois que c'est crédible pour une raison simple. C'est que elle, et c'est là la grande différence avec un impérateur romain, elle est reine. Et elle sait que quand on est roi ou reine, il faut avoir de la richesse. Et on a de la richesse pour l'étaler, pour la montrer. Ça fait partie de ce que les Grecs appellent la truffée. C'est toutes ces blagues, ces ragots qu'on va raconter sur la vie inimitable. Mais tout simplement, c'est le mode de vie des rois. Les rois sont là pour montrer qu'ils jouissent de l'abondance. Ils sont les protégés des dieux. S'ils dépensent sans compter, c'est parce qu'ils ont une fortune sans compter. Et donc, bien loin d'arriver en accusée, elle arrive à Tarse presque comme un vainqueur. Pourquoi on me convoque ? Mais bien sûr, j'ai soutenu les héritiers de César depuis toujours. Ceux qui ont fait le contraire chez moi, mais c'est qu'ils m'ont désobéi. Et elle fait liquider, évidemment, le grand amiral de la flotte. Elle fait le ménage et elle rétablit sa fortune. Et en même temps, est-ce que c'est volontaire ou pas ? Elle séduit Antoine. Alors là, évidemment, d'une certaine manière, elle a gagné sur tous les tableaux.
Un fabuleux festin.
On est si limité quand on doit voyager sur un navire.
Et un fabuleux navire. Il convient à sa reine, la fabuleuse Cléopâtre.
Le nom de Marc-Antoine n'est pas exactement inconnu du monde. À vrai dire, en un an depuis que nous sommes vus...
Il y en a presque trois.
Tu es devenu sans conteste pour un tiers maître de Rome.
elle a gagné. Elle a gagné dans sa négociation parce que elle se fait rendre Chypre qu'on lui avait repris dans l'intervalle d'ailleurs, et elle attire Antoine à Alexandrie. Et à mon avis, il y a une décision, enfin il y a une manœuvre politique. Si elle l'a pas déjà séduit, ce qui est improbable, elle compte bien arriver à ses fins, ou en tout cas négocier avec lui, parce que, encore une fois, les Romains ont besoin d'argent. Or, de l'argent, où en trouver ? En Égypte, parce que le royaume n'est pas si mal géré que ça, et donc, il y a de l'argent. C'est quand même, l'Égypte, ça représente un revenu de 15 000 talents à peu près par an, 12 000, 15 000 ou un peu plus, ça dépend des années, et donc, il y a là une manne financière. On parle toujours du blé de l'Égypte pour nourrir Rome. Bien sûr que c'est important, mais l'argent pour faire la guerre, ce n'est pas moins important.
Près de 3 années. Est-il possible que tu sois devenue encore plus belle ?
Près de 3 années ? Si longtemps ? Le temps a passé si vite.
Ton collier, il semble être fait de pièces d'or à l'effigie de César.
Trouves-tu ce collier attrayant ?
Oui, très.
Et je trouve ce que tu portes, toi, des plus saillants. C'est grec, je crois.
J'ai un faible pour presque tout ce qui est grec.
Comme je suis moi aussi presque grec, je me sens flattée.
Dans quel état d'esprit arrive-t-elle, Cléopâtre, elle, à Tarse ?
Elle sait pertinemment qu'il est impossible que l'Égypte retrouve son indépendance comme à l'époque des premiers Ptolémées. Donc, son désir de puissance ne peut se réaliser qu'à travers une union, une fusion avec Rome et avec les maîtres du monde romain. C'est la raison pour laquelle elle a été la maîtresse de Jules César et la mère de Césarion. Elle va faire exactement la même chose avec Marc-Antoine. Séduire Marc-Antoine, devenir la maîtresse de Marc-Antoine et avoir des enfants avec Marc-Antoine, parce qu'elle sait que les enfants, ça crée un lien avec le Romain puissant du moment. Elle va même avoir 3 enfants de Marc-Antoine. Donc il y a toujours cette stratégie d'union et de maternité, d'enfantement en quelque sorte, hein, avoir des enfants du Romain le plus puissant du moment.
Depuis le premier instant où je t'ai vu entrant dans Rome sur cette monstrueuse bête de pierre étincelante sous le soleil, tel un joli jouet d'or, comme j'ai envié César, envié au point d'en être malade. Non, ces conquêtes et ces triomphes, ni ces titres, ni ces hurlements du peuple, c'est toi que je lui enviais.
Une vie nouvelle va commencer. À partir de cette nuit, il ne faudra plus envier César. Ni rien, jamais. Personne, tu entends?
Elle a parfaitement compris que dans le monde romain, elle n'était qu'une vassale de la puissance romaine. Elle se souvient aussi de son père Ptolémée XII, humilié par les Romains. Il était le pantin, en quelque sorte, le valet, pourrait-on dire, de l'impérialisme romain méprisé. Elle est une amie des Romains, moins méprisée que ne l'était son père. C'est une amie privilégiée, c'est ce qu'elle veut. Elle veut ce statut de reine, amie, de regina, amica, privilégiée.
En conclusion de ce 3e épisode, retenez que Cléopâtre fut une reine en son royaume, une femme d'État, mais que la situation géopolitique dans le bassin méditerranéen l'a contrainte à des contorsions diplomatiques. Après la rencontre de Tarse, en Turquie, Cléopâtre parvient à attirer Marc-Antoine à Alexandrie. Elle va en faire son amant, toujours animée par la même ambition.
Cléopâtre se garde de perdre de vue le grand dessein formé avec César, le rêve égypto-romain, l'Occident et l'Orient unis par elle, Cléopâtre, par elle et Antoine.
C'était un beau rêve.
Un rêve qui va se transformer en cauchemar. La chute de Cléopâtre, c'est l'horizon du prochain épisode. Cléopâtre, le génie politique. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Flora Bernard. Lecture, Véronique Vella, de la Comédie-Française. Assistance éditoriale, Irène Menahem.
Documentation sonore, Frédéric Martin. Reportage, Martine Abbat. Mixage, Benjamin Orgeret. Prochain épisode, Mourir plutôt que subir. Cléopâtre, le génie politique, est un podcast original de France Inter.